mon ABCDR.
ABCD.
L'ABCDR, l'ABCDR.
Je connais par cœur mon ABCDR du son.
Son ABCDR, ouais.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast trimestriel de l'ABCDR du son consacré au rap français. Comme d'habitude, une heure de débat, d'analyse, de coups de cœur et d'avis plus ou moins constructifs pour débattre de ce qui a fait le rap francophone de ce début d'année. Une émission qui va nous faire voyager puisqu'on va à la fois aller à Marseille et dans l'univers de Berserk. Et pour m'accompagner, je suis avec deux membres de la rédaction. C'est un élément généreux et collectif de l'ABCDR, la preuve, il a fait une pause dans son écoute intensive de Souffrance, Relo et Ron Brice pour s'écouter des rappeurs qui posent des couplets sur des bruits d'ordinateur sous autotune. Raphaël est avec nous.
C'est très bien décrit. Salut Brice, salut voilà. Tout le monde.
Elle est autant fan de Jules que de Shrek, a la même assurance que le prince charmant et vise encore plus dans le mille que le chat poté avec son effet. Juliette est avec nous.
C'est une terrible introduction, mais bonjour Brice.
Bah, Shrek 2, meilleur épisode
de
Shrek.
Ah oui, alors non, moi c'est... Non mais c'est un unpopular opinion, le 4, bon.
Oh non, pas le 4 avec Harry Potter là.
Avec tracassant.
Ah non, c'est le 3.
Non, je non, c'est avec le 4 avec tracassant.
Je vais vous laisser du coup.
Bon, pardon.
Nouveau sujet de podcast du coup.
Cet épisode est enregistré en public à la librairie Galerie La Une dans le cadre de la résidence de Fifou et sa nouvelle maison d'édition Empire. Merci à eux pour l'accueil. Et on va pouvoir démarrer avec notre premier sujet qui traite de Zamdan.
Je converge, je fais des choix. À force, ça devient une maladie. Laisse-moi vivre ma vie, à ma guise, à ma guise, à ma guise. On n'est pas tous heureux, je ferme les yeux, j'ouvre le feu. Quand je veux, où je veux, où je veux. À ma guise, à ma guise, à ma guise, à ma guise. Quand je veux, où je veux, où je veux. Je fais du sale, pardonne-moi, je rends pas les enjeux. Joue un jeu, mais le jeu est dangereux. Endo, Socrate, c'est ici que je vis. Chili, calcule pas. Les bêtises que je dis, je fais mes choix, m'en faut pas t'en faire. M'achète vers mon ennemi, je dirige mon corps vers l'enfer. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ou est-ce qu'elle cherche mes failles? Chaque fois que je m'en oui, comme une fée, je fly.
S'il fallait donner une définition de la mélancolie dans le rap français aujourd'hui, ce serait sans doute lui. Avec son chant sur le fil, sa musique remplie de piano et de violon et son vécu entre noirceur et lumière, Zamdan a réussi ces trois dernières années à devenir un nom scruté et respecté du rap français. Fin février, le Marseillais revenait justement avec Solsad, un deuxième double album dévoilé en deux temps avec un gros casting où il développait aussi plus sa musique. Parce que si la tristesse et le chant sont toujours là, d'autres choses sont aussi apparues dans les chansons de Zamdan. Et c'est pour ça qu'on voulait aujourd'hui en parler. Raphaël, je vais te lancer sur ce sujet.
Oui.
Est-ce que c'était un album que tu attendais, que tu guettais un peu? Est-ce que tu avais déjà écouté Couleur de ma peine, son premier album? Et quelle impression ça t'a laissé ce deuxième double album par rapport à ce qu'il a fait auparavant?
Alors oui, effectivement, j'avais écouté Couleur de ma peine. J'avais été très impressionné et touché par le morceau Le Monde par ma fenêtre, en fait. J'avais trouvé ce morceau vraiment très beau, aussi bien dans ce, comment Zamdan écrit, comment c'était produit, comment lui l'interprétait. Parce qu'effectivement, tu disais très bien, il y a une forme très mélancolique chez lui. Il y a une vraie tristesse qui se dégage non seulement de comment il écrit, mais aussi de son interprétation. J'avais trouvé Couleur de ma peine... Je vais pas dire inégal, parce que c'était quand même un truc qui était, il me semble, assez abouti au vu de l'aspect très neuf que finalement qu'avait Zamdan. Mais il y avait pas tout, en tout cas, qui m'avait plu dessus. J'ai pas beaucoup suivi les affamés qui ont suivi derrière. J'ai un peu rattrapé mon retard au moment où j'ai eu l'occasion d'interviewer Thug Dance, qui est donc son producteur, réalisateur, dans le cadre d'un podcast pour Bouscapé. Donc j'avais un peu rattrapé le truc et ça m'a permis de voir aussi un petit peu les nouvelles expérimentations qu'il faisait, parce que ça, c'est un peu un terrain de jeu pour lui, c'est freestyle affamé. Et donc, je sais pas si j'avais une attente, mais j'étais en tout cas curieux de pouvoir écouter ce qu'il allait pouvoir faire sur ce nouveau disque. Et j'ai trouvé ça, à la fois intéressant justement sur plein d'aspects, notamment sur, je dirais, le parti pris jusqu'au boutiste du disque d'aller au bout d'une idée musicale, avec les transitions, avec la teinte musicale aussi de l'album. Et en même temps, je trouve qu'il y a parfois aussi, à des rares moments, quelques limites, ça j'en parlerai un petit peu sur je trouve, le style de Zamdan. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant toujours avec lui, c'est... Et d'autant plus intéressant avec ce disque-là, c'est que pour moi, Zamdan, il fait vraiment partie de cette génération qui a, consciemment ou non chez lui, je ne sais pas trop, repris quelques trucs qu'a lancé PNL finalement en France, c'est-à-dire justement cette mélancolie chantonnée sous autotune. Mais avec sa spécificité à lui d'être déjà quelqu'un qui n'a pas grandi en France, puisqu'il a vécu au Maroc et il le dit souvent en interview à quel point la musique de son pays l'a beaucoup influencé aussi, même si très vite la musique pop
sur
et ça sent beaucoup cette teinte méditerranéenne un peu globale, c'est-à-dire que il y a jamais des moments où tu te dis c'est soit de la musique nord-africaine, soit c'est de la musique italienne ou espagnole. Dans un podcast de notre collègue Wafa Mamesh qui s'appelle Prose, il disait en ce moment écouter beaucoup de musique portugaise et brésilienne par exemple. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est attiré par ce genre de musique un peu mélancolique et ça sent globalement sur la teinte du disque, donc il y a vraiment ce parti pris là sur le disque là et je trouve que c'est encore plus criant sur Solsad parce que sur Couleur de ma peine il y avait encore des morceaux très rap, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des titres du calibre de Stradivarius où il était plutôt vénère dans l'interprétation ou Incomplet en février qui était très à voix basse, il y avait des morceaux, c'était des instrus plug, il y avait des trucs où c'était très, très boom-bap français traditionnel, un morceau comme Zar par exemple. Et donc sur ce disque-là, sur Solsad, ça a mérite d'avoir un vrai parti pris. Moi, j'adore ça en fait quand je lance un disque, c'est-à-dire j'aime entendre des gens qui vont au bout d'une idée et qui font pas une sorte de cahier des charges, quoi. Mais en même temps, je trouve que il y a un peu une limite à cet exercice-là, en tout cas dans la direction musicale, c'est que Zamdan est quelqu'un qui maîtrise très bien son registre d'interprétation, justement sur cette manière de très bien chanter la peine. Dans sa manière de le chanter et qu'en même temps comme il n'a pas encore un grand registre d'interprétation avec cette teinte musicale que je vais nuancer aussi là-dessus parce qu'il y a quand même des vraies belles choses justement sur la réalisation du disque, parfois ça peut être un peu redondant et je trouve justement d'avoir eu sorti deux disques, autant quand j'ai écouté le premier le premier 10 titres j'ai trouvé ça vraiment très bien du début à la fin, autant arrivé ce deuxième, déjà je trouve les morceaux peut-être un peu moins forts sur le deuxième disque, à part un ou deux. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est peut-être un peu répétitif aussi d'être sur ce parti pris-là. Donc c'est un peu à double tranchant. Mais donc globalement, et après on rentrera sur les tests sur certaines autres choses, j'ai trouvé quand même ce double disque réussi, quoi.
Alors moi je comprends cet argument-là du côté redondant. Ce qui est vrai, c'est que certains morceaux se ressemblent pas mal. Mais après, je vais te lancer Juliette. Mais ce que j'ai bien aimé en fait sur Solsad, je me souviens que Couleur de ma peine, ça m'intriguait beaucoup avant que ça sorte. Et il y avait quelque chose où en fait, au final, il y a le Couleur de ma peine est au singulier sur le nom de l'album, et en fait, ça partait dans plusieurs couleurs.
Oui.
Il y avait de la drill pure, il y avait de la plug, et notamment des morceaux chantés sous autotune mélancolique. Et c'était là où je trouvais le plus intéressant. Et ce que j'ai bien aimé en fait avec Solsad, c'est que un peu comme t'en parlais, ils sont allés au bout de cet aspect-là de sa musique. Et c'est vrai que Solsad, c'est un album où il y a aucun morceau où Zamdan rappe, si j'ai pas de bêtises.
Ouais, vraiment, il y a plus tout ça. Ouais.
Et j'ai l'impression, en tout cas, quand on lit aussi dans la très bonne interview de Victor sur l'ABCDR du son, qu'avec Tech Dance, ils ont aussi décidé de vraiment chercher qu'est-ce qui convient le mieux à la voix de Zamdan, à sa manière de chanter, de rapper, et que les Affamés aussi ont servi la dernière saison de vrai laboratoire, et qu'ils ont vu que c'est vraiment quand il chante sur son vécu, la mélancolie, son passé, sur vraiment des instruments, que ce soit des guitares, des pianos, qu'il se passe quelque chose. Et donc ils se sont dit là, sur ce prochain album, on va aller vraiment à fond sur ça. Et je trouve qu'il a réussi à vraiment trouver un son à lui, là où Couleur de ma peine, quand on écoute Solsad, en fait, on se dit que c'était peut-être un peu presque une mixtape dans l'idée. Même dans le choix des featuring, pour moi, il allait chercher le All-Star Game de la mélancolie du rap français, avec du Josman, Solalune, Kekra. Et même, je trouvais ça hyper cool comme move d'aller chercher quelqu'un comme Zao aussi.
Bah, écoute-moi, franchement, sur les... À part Solalune, je trouve les autres très convenus, les autres featuring, les rappeurs, et je trouve que c'est avec Zao et avec Pomme au final que c'est le plus intéressant sur le disque. Je sais pas ce qu'on pense Juliette, mais voilà.
Ouais, je rejoins un peu plutôt Brice sur les feats. Je trouve que c'est plutôt une force là sur cet album, notamment je pense à Solalune, je vais en reparler, mais aussi à Kekra et à Pomme où j'ai l'impression qu'il essaye d'aller plus chercher dans l'univers de l'artiste avec qui il travaille, plutôt que seulement dans le sien. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, notamment sur le feat avec Pomme, qui est pour le coup très mélancolique. Moi, ce que je tire de la première écoute déjà de Sol Sad, c'est qu'effectivement, il a, Zamdane, il a cette faculté à poser un peu des mélodies totalement mélancoliques, très tristes, à des drums trap, comme sur Amagis qu'on a entendu tout à l'heure, Drill même sur deux morceaux, je crois, Infini et Stylo Magique, parfois Estival, comme sur La 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 et Fleurs, qui sont vraiment des hits, quoi, qui pour le coup sont peut-être le highlight de cet album,
c'est
à mon sens.
C'est un peu les éclaircies aussi dans sa mélancolie, un morceau comme La 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 aussi.
Ouais, c'est clair, parce qu'il est beaucoup plus léger aussi, et ça lui va bien. Je trouve que c'est les morceaux qui lui vont le mieux sur cet album. Maintenant, il y a une force aussi qui réside dans l'écriture. Je trouve que globalement, c'est quand même très bien écrit, et je vois une véritable différence avec Couleur de ma peine, qui était déjà, à mon sens, très complet. Mais c'est vrai que là, il y a quelques morceaux que j'ai trouvé assez bouleversants dans l'écriture, très, à la fois très simples et très fortes. Je pense à Mélancolie criminelle, par exemple, qui... Enfin, musicalement parlant, purement, ça me parle pas de ouf parce que c'est un piano-voix. Bon, on va en reparler, mais c'est beaucoup de piano-voix dans cet album, donc c'était un peu lassant. Mais en revanche, c'est très très bien écrit, donc j'ai trouvé ça assez bouleversant. Après, effectivement, le gros problème, c'est que je rejoins Raphaël, c'est assez redondant. Il y a notamment un vrai problème au niveau des prods qui, pour moi, se ressemble beaucoup, surtout que c'est long, en fait, parce qu'il y a la première partie que j'ai écoutée en premier, donc là, à ce moment-là, ça m'a plu. Mais effectivement, quand on écoute de A à Z, maintenant qu'il y a 20 titres, que c'est un double album, c'est tout de suite beaucoup plus pesant, tout ce truc de des guitares, des pianos. Bon, Brice, tu nous reparleras de ce sujet tabou qui est est-ce qu'inviter Sofiane Pamart est devenue la mode sur tous les albums qui sont sortis à ce début de trimestre. J'avais des attentes aussi, et pour le coup, justement, quand la première partie, il y avait seulement la première partie qui était sortie, j'étais assez satisfaite de la direction que ça prenait, parce que je trouvais effectivement que ça consolidait un peu l'identité que Zamdane s'était créée au fur et à mesure du temps. Mais voilà, il y a beaucoup de longueur. Couleur de ma peine, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Effectivement, c'était peut-être ça digressait dans les genres, il y avait beaucoup de genres différents, mais ça lui allait bien aussi. Ça lui allait bien, et comme a dit Raph, le voir sur des morceaux comme Stradivarius, où c'est plus trap, où il rappe, c'est aussi quelque chose qui manque beaucoup sur Sol Sad, pour ceux qui écoutent Zamdane depuis un bout de temps. Donc je reste aussi sur ma faim, je suis assez frustrée de cette écoute.
Moi, je crois que j'ai vraiment bien aimé le parti pris de vraiment, je trouve que c'est trop rare en fait dans le rap francophone aujourd'hui d'avoir des albums qui veulent vraiment avoir un son du début à la fin. Et on est plus quand même dans une période où on écoute un peu des albums qui sont des compilations. Ce que j'ai apprécié, c'est que là ils se sont dit on va aller au bout de notre idée. Après, effectivement, 20 morceaux, peut-être que c'est un peu trop long, quoi. Ça fait quand même plus d'une heure de Zamdane, et c'est vrai qu'il faut avoir le moral un peu accroché quand même, parce que ça reste assez triste, même si il y a quand même une évolution là-dessus aussi dont je voulais parler. C'est que même dans son écriture, ce que j'ai apprécié, c'est que je sais que, après, c'était peut-être à une période où je voulais pas écouter quelque chose d'aussi triste, mais Couleur de ma peine, je trouvais très parfois très 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 triste, quoi. Il y avait des phases vraiment hyper déprimé, et en même temps, dans sa vie personnelle, il venait de vivre des choses compliquées. Sur Sol Sad, c'est Victor qui disait ça sur la superbe interview à BCDR du son.
Ça fait deux fois que tu le dis, quand même, ça fait beaucoup.
Elle est très intéressante, allez la lire. Il disait quelque chose qui était que sur Sol Sad, les blessures de Zamdane sont toujours là, mais elles ont un peu cicatrisé, quoi.
Alors, je trouve qu'il y a un côté plus chaleureux, pardon, je t'ai coupé.
Non, effectivement, il y a un côté plus chaleureux sur un morceau comme La 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 La, justement. Et en même temps, moi, je trouve que ça crée un paradoxe, ce truc-là, chez Zamdane. Tu vois, ce truc de, effectivement, les cicatrices, les plaies sont en train de se cicatriser. C'est qu'il y a quelques rares moments, c'est vraiment pour pinailler, pour faire mon critique musical relou. Mais à quelques rares moments, je trouve que, et ça, je pense qu'il le sauve aussi par son interprétation, il pourrait presque être générique à certains moments, justement, parce que. Il va être presque trop vague. C'est-à-dire qu'on sent qu'effectivement, il y a une envie chez lui de ne pas répéter certaines choses, peut-être parce que les choses se cicatrisent et c'est normal quand on a vécu le deuil, etc. Peut-être parce qu'aussi, il a déjà rappé et chanté sur ce thème-là et qu'il n'a pas envie de se répéter. Il y a quand même le deuil et la peine qui revient. Je pense que tu citais le morceau « Mélancolie criminelle ». Il y a aussi le morceau « Monstre » en toute fin d'album, sur le deuxième disque en tout cas. Et du coup, la peine est toujours présente, mais il n'arrive plus à l'habiller avec le même sens du détail pour justement expliquer ses émotions, peut-être parce qu'il n'a plus envie de revenir sur ces sujets-là. Et je trouve que du coup, ce manque de précision, ça peut presque un peu parfois le rendre un peu générique. À un moment donné, je ne sais plus sur quel morceau, je l'ai probablement noté, mais là, si je regarde dans mes notes, je vais me perdre. Il y a un truc de... il utilise genre la troisième personne du pluriel, le « ils », je sais pas, ils m'ont fait du mal ou ils m'ont arraché quelque chose, etc. Et ça, c'est presque un défaut du rap français, d'ailleurs, ouais, de ces dernières années. C'est, ou tu sais, t'étais pas là quand, tu vois, il y a un peu ce truc un peu générique de « ok ».
Un peu facile, quoi.
Un peu facile, ou tu sais, j'ai vécu des horreurs. Peut-être qu'il a plus envie de les répéter, mais du coup, ça donne plus corps à cette émotion qu'il essaie de nous transmettre, ou en fait, j'ai des traumas et ça explique pourquoi je fais cette musique et pourquoi cette musique, pour moi, elle est thérapeutique. Mais du coup, il les explique plus vraiment. Mmh. Et du coup, il y a des moments, franchement, encore une fois, c'est pour pinailler, c'est vraiment des rares moments où je me dis, je comprends de peut-être plus remuer ça. Mais en même temps, tu n'arrives plus à donner, comment dire, à autant de précision à ce que tu voulais nous transmettre.
Il y a un morceau, en revanche, qui se démarque, et tu en parlais tout à l'heure, c'est Bobo Alam avec Sous la Lune. Ouais. Et justement, quand on suit un peu Sous la Lune, et que bon, c'est totalement son registre, quoi, la mélancolie, suffit de voir son dernier album, du coup, L'Enfant de la Pluie, qui est sorti il y a quelques mois, fin 2022 peut-être, et qui était profondément triste quand même, même bouleversant. Et je trouve que justement, là encore, il va chercher dans l'univers de Sous la Lune et il crée un truc qui est totalement logique, en fait, parce que voilà, la connexion, elle est évidente et ils arrivent à faire ressentir quelque chose,
ouais, de ouf.
Parce que ça marche, parce que... Enfin voilà, donc je trouve que ce morceau-là, il se démarque par rapport à ce que tu disais.
Mais c'est ce que je voulais avancer par rapport à l'écriture, c'est que sur Sol Sad, justement, au milieu de cette mélancolie, il y a un peu des éclairs de lumière, un peu avec des choses un peu optimistes, positives. Même sur le morceau avec Pomme, il dit carrément « ne sois pas triste ». Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'est plus facile à écouter que « Couleur de ma peine » parfois. Et ça m'a fait réfléchir à j'ai une conversation avec une humoriste qui s'appelle Fanny Rué, qui fait de l'humour assez dark, assez sombre. Je la salue d'ailleurs. Et elle m'avait dit quelque chose qui m'avait un peu fait réfléchir, c'est qu'elle me disait... les blagues un peu sur des... En tout cas, évoquer des choses personnelles douloureuses, il faut le faire quand ça a été... En général, il faut le faire quand ça a été digéré. Sinon, les gens voient que c'est encore trop frais et ça va pas forcément être... Ça peut mettre les gens mal à l'aise. Et je trouve que la force de Sol Sad, c'est qu'il il commence à avoir du recul sur... pas mal de ses souffrances, et donc il met aussi il parle un peu plus au passé de ça, là où sur Couleur de ma peine c'était très ancré dans le présent, et il y avait beaucoup, parfois il y avait presque du désespoir, quoi, sur Couleur de ma peine.
C'est ça qui en fait une force aussi, enfin c'est justement ça qui fait que les morceaux sont forts, c'est de ressentir ce désespoir aussi à travers ces morceaux-là.
Moi je trouvais ça trop pesant, là où sur Sol Sad je trouve que justement, même avec l'image du soleil, etc.
Je trouve que ça joue beaucoup sur la forme musicale, parce que je parlais de ce morceau là.
Parfaite transition.
Tu veux qu'on s'écoute un extrait? Ouais,
t'allais dire le nom du morceau.
J'allais dire le morceau Printemps.
Eh bien, non,
c'est
ça quoi, marche pas.
C'est quel morceau?
Attention, là, c'est Lala. Là.
Eh ben vas-y, on s'écoute. Si t'as un extrait Lala, on s'écoute.
Fille ma bohème, nique les problèmes. Je parle de ma peine, m'a dit que c'est beau comme un poème. Il me reste encore un peu de haine. Un peu de moi, un peu de elle. Un peu de froid, un peu de gel. Un peu de poids que je traîne. Recel de blanche, Marseille, c'est la Colombie. Corbeau pleure pendant que la Colombie. Frérot, je dois donner. Parce que j'ai jamais oublié ce qu'ils m'ont pris. J'ai marché sans espoir comme un zombie. Et ma tête laisse croire que je suis maudit. Quand je dis on le fait, j'envoie des soldats. Quand je dis je t'aime, j'envoie des émojis. Je t'envoie un message que j'ai écrit hier au pif. Toi tu comprends rien, comme si c'était des hiéroglyphes. Maman pardonne-moi, cette vie m'a rendu émotif. Parce que j'ai fait couler du sang, j'ai tatoué un sabre en guise de motif. J'plonge mes soucis se noient. J'contemple les abysses, mais j'sais qu'en retour les abysses me voient. Oh, 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 oh. J'vis dans ma tête depuis des mois. C'est mon âme qui s'abîme dans une crise.
Donc on vient effectivement d'écouter le morceau La 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 La. Et justement, je crois que tu voulais parler des changements musicaux aussi qu'il y a sur Soulsad.
Pour un peu justement nuancer un peu ce truc, effectivement, et sur lequel je suis d'accord, je suis plutôt team Juliet là sur le côté un peu redondance sur l'aspect musical, justement, en tout cas des choix d'instrumentation. Il y a un vrai boulot, par contre, je trouve, sur deux choses. C'est d'abord la variété rythmique. C'est-à-dire que, effectivement, sur Couleur de ma peine, c'était très polychrome. Tu vois, tu le disais tout à l'heure, finalement, il y avait plein de teintes différentes. Alors, ça pouvait soit, effectivement, comme toi, Brice, trouver peut-être ça un peu fourre-tout, ouais, voilà. Mais toi, au contraire, ce que tu disais, que tu aimais ça, Juliette, cette volonté d'être un peu éclectique. Je trouve qu'on retrouve ça, en fait, en termes rythmiques. C'est-à-dire que, avec cet écrin musical, très guitare sèche, piano, quelquefois des cordes, il y a cette volonté de jamais retomber sur les mêmes schémas rythmiques et un morceau comme ça, justement, qui tire plus sur une forme de... je ne sais même pas comment décrire, avec quel genre musical décrire ça. De la
house.
C'est de la house, tu dirais, ouais. Toi. Tu es plus un spécialiste que moi, c'est pour ça. Mais un morceau comme Printemps, moi, mon morceau préféré sur l'album, c'est Printemps.
Ouais, c'est de la house à la Tuck Dance, donc réalisateur de l'album, qui est membre aussi d'un duo électro qui s'appelle Amin Edge and Dance. Ouais. Et dans l'excellente interview sur la BCDR, plus sérieusement, dans l'interview, il dit que justement la Zamdan, un peu comme sur, comment s'appelait ce morceau, Fluka, sur le premier album, l'a un peu plus poussé à aller aussi faire de la house. Sur du coup, là, il y a trois morceaux au moins.
Et bah, c'est pour ça que moi, La 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 et Printemps, c'est mes morceaux préférés, parce qu'il y a ce côté... on danse en pleurant, ou on pleure en dansant. Et j'aime beaucoup comment lui, il arrive à le faire, qui est un truc finalement très marseillais aussi. Hein. Ça a été dit et redit plein de fois, mais quelqu'un comme Jul arrive à très bien le faire. Et lui, il le fait à sa sauce, c'est-à-dire qu'il ne refait pas du Jul. Il y a un morceau aussi qui commence, je l'avais noté, c'était lequel ?
Million.
C'est Million, Million exactement. Ouais. Million, qui commence avec juste une instrumentation... d'instruments mélodiques, ouais, et qui finit sur ce genre d'instru un peu joulesque, ouais. Et il le fait très bien et ça sonne pas comme un espèce de ressucé de joule non plus, quoi. Et il y a un morceau, le morceau actif, c'est une espèce de rythmique baile funk. Il y a des traces rythmiques de trap, le morceau Grand Cirque notamment, qui fait trap chanson, justement, le morceau avec Pomme, et je trouve ça vraiment original.
Et c'est ce qu'il disait, c'est que Pomme avait d'abord posé donc sa partie, et ensuite ils avaient récupéré, ils avaient rajouté les drums et tout, et
C'est une chanson de Pomme, voilà, qu'elle a fait pour la session. Tout à fait, ouais. Avec lui.
Et là-dessus, c'est sur cette variété rythmique et sur comment les morceaux évoluent surtout. C'est-à-dire que parfois, ça peut commencer juste avec effectivement les instruments de musique et Zamdan qui chante dessus. Et derrière, il y a les rythmiques qui arrivent. Et du coup, c'est des espèces de contre-pied parce que tu sais jamais vraiment en termes de cadence rythmique ce que ça va être ou en termes de pattern rythmique, quoi. Et donc, ça, je trouve ça intéressant. Et puis, il y a tout le travail de transition. Et c'est ce que tu disais aussi, Brice, sur le côté. Parti pris pour un album de ce registre de rap français. Il n'est pas encore très mainstream, Zamdan, mais je pense qu'il arrive à toucher quand même un public assez large. D'avoir un vrai taf sur les transitions, en fait. Il y a un vrai séquençage de l'album et t'as jamais l'impression d'écouter une compilation. T'as vraiment l'impression d'écouter un album qui a été pensé du début à la fin, justement sur cette espèce de fil narratif musical. Et ça, pour le coup, au-delà effectivement peut-être du côté redondant qu'il peut y avoir sur l'aspect... musical et d'instrumentation, je trouve que ça vient compenser ça, ces deux détails que je viens de décrire.
Est-ce que vous direz que c'est un album un peu moins triste musicalement que celui d'avant ?
Moi, je trouve pas. Mais je trouve pas, surtout parce que je me répète, mais le fait que les prods soient quasi tout le temps piano, guitare et qu'il y ait très peu, par rapport à Couleur de ma peine, c'est quand même le jour et la nuit. Moi, ça m'a beaucoup dérangé dans l'écoute et en réécoutant là, ça me fait penser que j'aurais peut-être préféré en fait un EP de seulement des sons comme ça. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, ça marche super bien.
La fête à Zamdan.
Mais après, c'est des sons que j'ai adorés, que j'ai ajoutés dans mes playlists, que j'écoute et tout. Enfin, c'est pas. En fait, c'est plus avec le format d'album que j'ai du mal là sur Soulsad. C'est pas avec la musique parce que je la trouve très sincère. Le plus important pour moi dans la démarche d'un artiste, c'est qu'elle soit sincère. C'est qu'il fasse ça avec le cœur. Zamdan, on sait que c'est le cas. On sent même toute la promo qui l'entoure, etc. Que c'est une démarche qui s'inscrit là-dedans. Et tu parlais tout à l'heure de digérer sa peine, etc. Mmh. On sait, pour remettre dans le contexte, que Zamdane, il fait cet album, il n'avait pas prévu de le faire, et il a cet accident de voiture, donc très grave. Et finalement, il a de la matière, c'est ce qu'il dit dans cette formidable interview aussi, que qu'il a de la matière pour faire un album. Maintenant, est-ce que c'était le bon moment ? Je suis dure, j'ai l'impression d'être très dure avec l'album. Alors que
on est exigeant avec les artistes qu'on aime bien.
Oui. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé à la première écoute notamment, quoi. C'est juste, est-ce que le format album était adapté ? C'est plus là-dessus que j'ai des réserves, quoi.
Mais je pense que le 10 titres, en fait, encore une fois, alors ouais, là pour ça. Le coup, qui est un de mes morceaux préférés, qui est sur le deuxième, mais je pense que vraiment cette espèce de format de 10 titres qui se terminait avec Infini, qui est un des morceaux les mieux écrits d'ailleurs, je trouve, je trouve que ça fonctionnait peut-être mieux. Après, je comprends parfois quand on est artiste, on veut être gourmand et si la créativité nous y pousse, on enregistre beaucoup de choses et finalement, on a aussi envie d'être généreux avec notre public, sans doute. Mais je trouve qu'au final, juste la première livraison, j'aurais sûrement dit que c'était un très grand disque. Et je pense d'ailleurs que ce 10 premiers titres est un très grand disque. Je suis un petit peu moins aussi enthousiaste sur le global des 20 titres, quoi.
Et justement, avant qu'on passe à la deuxième partie, est-ce que vous voyez une vraie distinction entre les deux parties du double album ?
Non, je pense pas. Je trouve pas qu'il y a une vraie distinction. C'est plus en termes je dirais même pas de qualité, parce que c'est pas des mauvais morceaux, mais c'est juste que ça se tient tellement bien, je trouve, sur le premier album qui est sorti, que c'est un peu comme, c'est peut-être une comparaison qui est un peu tirée par les cheveux, mais c'est comme Les Étoiles Vagabondes et Expansion, tu vois. Je trouve que il y avait tellement un bon album avec
Les Étoiles Vagabondes. L'Expansion en ma présence.
Le neck fan. je trouve qu'il y avait tellement un bon album que, tu vois, il y a pas besoin parfois de trop en rajouter pour que... même si on a peut-être des bons morceaux encore dans sa besace, quoi.
Mais voilà, en même temps, il y a beaucoup de fulgurance dans le deuxième
bah,
disque.
Il y a quand même la Monstre aussi.
Oui, voilà, qui a un beau titre.
Qui est bouleversant aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé justement avec cette première partie drumless, je crois. Et après, il y a ce drop où il est super touchant, quoi. Et effectivement, il y a ces fulgurances-là. Donc, c'est peut-être plutôt dans la sélection des morceaux. Bon, après, je me prends pour une DA, je sais pas ce que je fais là, mais peut-être 20 titres quand même, sachant que Couleur de ma peine, alors qu'il y avait, pour le coup, je trouve, aucune redondance, il y avait 18 titres. Donc là, 20 titres sur quelque chose qui
ça
est plutôt dans
plus,
le même
quoi.
Genre. Oui, mais sur quelque chose qui est plutôt dans la même couleur, pour le coup. Donc, direct, ça fait quand même plus long. Enfin, voilà, quoi.
Parfait, bah, on va passer au coup de cœur. Juliette, c'est toi qui vas commencer en remontant ta manche. Tu voulais nous parler d'un artiste qui s'appelle Esti.
C'est ça, Esti. Je voulais parler de Low Life qui est sorti le 2 février 2024. C'est un EP, je crois bien. Low Life, déjà, ça veut dire, traduction littérale en anglais, peu recommandable, voyou, crapule, donc ça annonce la couleur. C'est peut-être ma seule véritable claque depuis dans ce début d'année qui m'a laissé un peu de marbre parfois. Esti, c'est un rappeur de banlieue parisienne qui commence à faire ses armes en 2020, à côté notamment de Dundee, et il apparaît dans le grunt de La Fève, le Grunt 43 qui est sorti en novembre 2020, avec justement Dundee et avec Rally. Et donc c'est là qu'il commence à se faire remarquer. Low Life, c'est son quatrième projet, après Black Durag vs Gio Brando en 2021, Black Durag 2 en 2022, c'est à ce moment-là que je commence vraiment à l'écouter, et Cash Machine Therapy en 2023, qui était aussi un de mes coups de cœur l'année dernière. Low Life, c'est 11 titres, aucun feat, mais une flopée de beatmakers de talent, notamment Liele, qui l'a beaucoup accompagné tout le long du projet. C'est un disque qui est très ancré dans la trap d'Atlanta, donc des Young Thug, Migos, etc. Esti, c'est vraiment cette énergie de hustler ultra déterminé, qui a galéré, qui a la rage de vaincre. Et on sent que c'est vraiment un marathon mental. Et quand chez certains, ça peut paraître un peu superficiel, lui, c'est très fort. Et on sent qu'il a la volonté de faire la musique à tout prix, comme sur un morceau comme Trap à la mort, par exemple, où il évoque le fait qu'il a quitté la maison familiale pour faire de la trap à la mort, du coup. Et Et c'est très fort. En termes de prod, c'est aussi spectaculaire. Honnêtement, il y a zéro skip, à mon sens. Il n'y a aucun morceau qui est en dessous des autres. Par contre, ouais, non, c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même assez exceptionnels. Je pense à Maison Hantée, à Bif, qui sont particulièrement forts en termes de prod. Donc pour moi, c'est un accomplissement, ce projet, dans son parcours. Et tout ce qui lui manque, c'est juste plus d'auditeurs, en fait. Donc voilà, 2024... Esti,
voilà. Merci dans les rookies à suivre.
Exactement.
Et on va donc maintenant passer à notre deuxième partie sur Femme Togo.
Le truc back to back, j'étais à deux doigts d'aller signer un pack. Urban Camo, l'opérateur à l'outil de close contact. Y'a du sang sur les murs de la fosse au lion. J'parlais aux fantômes, j'étais fou au fond. J'voulais voir la lumière donc j'ai grimpé comme Talia. 10 ans plus tard, j'suis affilié au faucon. Quand j'mets linge de Palestine sur ma face, petit con, ce n'est pas qu'un signe de striker long. Magazine, Vindicta, la quête, c'est la seule consigne. Pète-toi, repète-toi le crâne sur l'énigme. Tu feras jamais partie de la guilde assassine. J'passais incognito à la agent Fritz. Et ça depuis l'époque de triple beam. Sicarius a dit, tu vas faire dodo, elle mord dans la nuit. J'ai rien oublié, j'peux pas roupiller. J'veux les voir souffrir dans une mutinerie. J'aurais orchestré.
Depuis un an et demi, c'est un des visages masqués les plus intrigants du rap français, sans donner aucune interview, ni montrer son visage en photo ou dans un quelconque clip, puisqu'il n'y en a toujours pas. Femme Togo agite de plus en plus les suiveurs les plus assidus sur Internet. Des images pourtant, il y en a un sacré paquet dans sa musique, biberonnée à la pop culture, que ce soit les mangas, le cinéma ou les jeux vidéo. Femme Togo raconte finalement son vécu à travers des personnages de fiction tout au long de ses textes, tout en jouant avec les genres musicaux, notamment avec l'aide du producteur Néofront. On y entend ainsi des influences électroniques, des arrangements proches des musiques de films ou même parfois de la pop tendance années 80, tout ça dans la musique d'un seul artiste ou presque, on va en reparler tout à l'heure. Femme Togo lit finalement une musique bien à part, il le rappelait encore mi-mars avec son nouvel EP La Bête avec le producteur Wilhelm. Et on va maintenant en discuter, notamment avec toi Juliette. Écoute, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'est pas encore non plus aussi connu que certains aimeraient, est-ce que tu pourrais un peu décrire la musique de Femme Togo? Comment tu présenterais toi sa musique?
Alors Femme Togo, déjà ça fait depuis 2019-2020, je dirais qu'il est actif sur SoundCloud notamment. Et donc son premier projet sur les plateformes qui est sorti en octobre 2022, qui est One Man Army, qui l'a fait remarquer. Femme Togo, il est assez éclectique dans les genres qu'il peut proposer. Bon, on en reparlera notamment pour... l'autre projet. Voilà, bref, on en reparlera.
On peut dire Baby Ayaboussa...
Je voulais pas le dire, tu m'as interdit de le dire. Je les 15 interdit. Premières minutes, tu m'as dit, on ne dit pas. Donc voilà. Mais voilà, il est assez éclectique. Au début, il faisait, c'était un peu fourre-tout sur SoundCloud. Il y avait pas mal de sons influencés de Jul, des trucs un peu plus trap. Après, sur One Man Army, donc, qui est le projet qu'il fait vraiment remarquer en octobre 2022, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de références. Je pense que c'est ce qui ressort le plus, en fait, de son univers, c'est qu'il est ultra riche et bourré de références donc à la pop culture, les mangas Berserk, les jeux, on va être sur Call of Duty, Mirror's Edge, vraiment ultra ultra référencé à chaque line, parfois dans le nom du son. C'est aussi des références politiques, historiques, notamment dans One Man Army, c'est beaucoup de références à la guerre d'Afghanistan. C'est aussi la Warfare Music, la fameuse du collectif SPK, Scarpa Cage avec Irko, etc. C'est quelque chose qui est très riche. Et surtout, quand il sort One Man Army, qui est très fort parce que c'est 4 titres. Et en fait, c'est exactement le bon format pour que ça claque à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça plaît aussi. C'est parce qu'il vise très juste... C'est singulier, il faut le dire, parce que en vrai, c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression. Et là, il y a cette vraie impression de singularité. Après, il y a eu d'autres projets. Je ne sais pas si on poursuit là.
Vas-y.
Allez.
C'est ton moment.
C'est mon moment. Du coup, il y a eu donc un autre projet sous le nom de Baby Hayabusa, on va en reparler. Il y a eu Nameless Belligérante, qui est mon projet préféré de Femme Togo, je pense, à l'heure actuelle.
Ton coup de cœur des.
C'est ça, dans mon abécédaire du fond, du bilan 2023 de l'abécédaire du son, que je vous invite à lire, parce qu'il est super.
C'est bien, t'as compris l'esprit corpo.
Je suis très corpo aujourd'hui. Et justement, dans cet abécédaire du fond, je décrivais ça un peu comme une apothéose de son œuvre. Très courte jusqu'ici quand même, mais parce que je trouve que il regorge de voix différentes, de tons différents. C'est à la fois riche dans l'écriture, dans les prods. C'est aussi une apothéose parce que avec Néofront, il fusionne aussi sur ce disque. Ils sont vraiment, Néofront prend beaucoup de place en fait sur l'opus, donc on peut pas en parler sans parler de lui, tu vois. Avec des prods apocalyptiques un peu. Et t'as Femme Togo qui un coup chante et puis un coup rap et à la fois triste, énervé et c'est j'ai trouvé ça très très fort. Après là il y a La Bête qui est sortie donc dans ce premier trimestre 2024 et là j'ai un peu plus de réserve. Surtout à la première écoute j'ai pas trop aimé honnêtement. Finalement j'ai réécouté, je suis plus mesuré, parce que je comprends là où il a voulu en venir, mais en même temps je le trouve moins abouti, peut-être un peu précipité. On évoquait un run de Femme Togo, peut-être que justement il pourrait calmer les choses aussi, parce que La Bête c'est peut-être une espèce de digression dans son parcours, parce que je trouve qu'il est moins abouti et qu'on comprend moins où il veut en venir. Il y a une vraie couleur, il y a ce truc un peu techno dans les prods de Willem, je pense notamment au deuxième titre qui fait vraiment mur de son. Enfin oui, voilà quoi.
On dirait des gros influences drum and bass sur ce morceau-là. Ouais,
ouais c'est clair. Et,
mais techno avec je trouve des sonorités aussi de musique du Moyen-Âge quoi.
Mais oui, mais parce que.
Des chœurs un peu gothiques, etc. Sur un peu tous les morceaux, il y a des éléments de ça aussi, en référence aussi à l'univers visuel de cette EP. Où on voit un chevalier, un dragon sur la pochette, un teaser aussi avec un dragon en 3D très joli d'ailleurs.
Et sur le troisième son aussi, dans le début du son, il y a un moment une espèce de piano un peu sec qui fait penser au BO de jeux de ouais. Dark Fantasy et tout, et on est totalement dans cet univers. C'est pour ça que je dis qu'il y a une couleur, c'est que là encore, on perçoit son univers, on le voit. Mais est-ce que c'est aussi fort que ses précédents EP, je suis un peu plus mesurée. Je crois que Raphaël était assez d'accord avec moi là-dessus.
Ouais. Ouais, bah en fait, effectivement, tout à l'heure on parlait de parti pris quand on parlait de Zandan, que ce soit Femme Togo ou Irko aussi, je trouve qu'il y a vraiment un truc chez eux de jusqu'au boutisme quoi, qui sur le papier me plaît. Et même en fait, dans une première approche, ça me plaît d'écouter des jeunes artistes qui pourrait se dire il faut que j'arrive à faire fonctionner ma musique, il faut vite que ça paye et peut-être se conformer à des trucs, et c'est pas du tout le cas chez eux, ils vont jusqu'au bout de leur idée, donc ça c'est plaisant. Et ouais, il y a vraiment ce truc de rap hyper référencé, tu te prends des octets de page Wikipédia dans la gueule hein,
c'est clair.
De jeux vidéo, tu parlais de jeux vidéo, mais enfin particulièrement dans cette EP il y a des références bibliques.
C'est la fête aux contributeurs Genius, hein, ouais. Quand même, les
projets de Femme Togo. Oui, et c'est ça, c'est-à-dire que moi, si je ne vais pas sur la page Genius, il y a des trucs que je comprends rien, parce qu'il y a des trucs de jeux vidéo que je ne comprends pas, je ne joue qu'à Zelda, voilà. Donc moi, il y a plein de références que je ne capte pas. Et ouais, même de botanique, tu vois. Et pour ça, c'est cool, parce que en plus, je suis un homme qui a mon âge, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert le rap avec IAM dans les années 90, et IAM, il y avait déjà ce truc très encyclopédique, ouais. Et en fait, j'ai appris des trucs, donc moi, ça me permet d'apprendre des trucs aussi. Et donc ça, c'est trop cool, même tu vois, sur des trucs botaniques, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Que des gens sur Genius aillent mettre bah ça c'est telle plante, ça fait telle ça produit telle toxine, etc. En fait c'est trop cool, et tu vois que le mec il a cette curiosité là et cet appétit intellectuel, et ça c'est cool. Mais ça a un mérite et ça a un revers, et là c'est là où je te rejoins effectivement Juliette, c'est que parfois t'as l'impression que tu t'écoutes juste une rafale d'informations. Et effectivement peut-être sur One Man Army et sur Nameless Belligérante, il y avait un peu ce truc de au-delà de ce décorum, au-delà de cette toile de fond autour de la guerre, de peut-être parfois de l'héroïque fantasy, etc. C'est
de vous raconter un peu comment je surmonte l'adversité dans ma vie, ou que j'essaie d'avoir une sorte de quête de sens. Et je ne le retrouve plus, en fait, sur cette EP-là. Je trouve qu'on est juste un peu dans l'accumulation.
Ouais, quand même, le dernier morceau, vraiment La Bête, il parle de ça, quoi.
Mais c'est peut-être le seul, justement. Ouais. Je trouve que dans les autres, c'est beaucoup de la démonstration, finalement.
Ouais.
Et autant il y a des rappeurs qui peuvent être très démonstratifs d'un point de vue technique, et au final, dire pas grand-chose, ce qui peut être très beau aussi. Hein. Mais au final... Bon, ça peut vite devenir ennuyant. Et bah, sur ce disque-là, je trouve que je retrouve pas, peut-être ce qui faisait un peu le sel, de l'intérêt justement des précédents EP. Surtout qu'en plus, je trouve que Willem, il a une autre approche justement musicale. C'est une question de nuance hein, et pas de nature avec
Néofront,
merci beaucoup. Notamment en plus sur One Man Army, où il y avait ce truc justement très musique de guerre, très musique de film de guerre presque. Là, on retrouve ce genre de teinte. Et j'aurais presque envie en fait qu'il aille plus loin sur ce truc de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a toutes ces références et qu'est-ce qu'on essaie de raconter, quel discours on essaie de développer.
Ouais.
Ou alors justement aussi dans la forme, c'est-à-dire que il y a un truc aussi que pour moi ça fait pas mouche chez Femme To Go, c'est je trouve son flow un peu répétitif. Je trouve que c'est un peu toujours la même manière de
ça
rapper.
Ça dépend sur quoi.
Franchement, je trouve que c'est souvent un peu ce rap un peu ce flow un peu mitraillette. Presque à bout de souffle par moment.
Et en fait, ça se voit beaucoup dans La Bête. Et c'est justement ce que tu dis, c'est que, en fait, si on met de côté les prods de Willem, qui sont différentes des prods de Néofront, si on prend uniquement Femme To Go, l'interprétation de Femme To Go, le flow de Femme To Go, c'est assez lisse.
Rectiligne.
En fait, c'est rectiligne par rapport au projet qu'il a fait avant. On a l'impression d'avoir déjà entendu ce flow, ce son. Et
c'est un flow quand même atypique, quoi.
Je trouve pas ça si atypique que ça.
Moi, je trouve que.
Je trouve qu'il y a parfois des choses que j'entends chez quelqu'un comme Kershak, par exemple. Cette manière de rapper très vite, de manière hyper rectiligne, sans silence, sans espèce de variation de cadence rythmique.
Ouais, et c'est sa voix qui fait le côté atypique, peut-être.
Je pense que c'est plutôt sa voix et.
Son interprétation, quand même, elle est assez intense, quoi. Enfin.
Ouais.
Je trouve. Bon, alors,
du coup,
je vais faire le FCM Femme To Go. Parce que,
non, non, mais je suis d'accord que c'est quand même atypique, mais là, pour le coup, par rapport en tout cas aux autres EP, c'est répétitif. Pas par rapport en général, ouais, quoi. Ouais. C'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment ce projet-là.
Et là où je trouve, où à la limite, il y a des trucs où je trouve ça plus intéressant, c'est qu'il commence à développer justement la forme, c'est-à-dire le jeu dans l'écriture. Il y a notamment dans le morceau Dragada, et en fait, où il fait un truc sur Dernier Mère 2, Manière de Marquis, en fait, il commence à jouer un peu sur les sonorités des mots qu'il utilise, et là où je trouve que ça fait ressortir un peu de ce côté un peu longue autoroute parfois que peut avoir sa manière de rapper, quoi.
Parce que moi, ce que j'ai bien aimé sur La Bête, c'est que bon, déjà effectivement, ça sonne encore plus électronique que les EP d'avant, donc j'ai une sensibilité là-dessus. Et surtout, j'ai vraiment retrouvé ce côté à travers toute cette imagerie là, un peu. Je trouve que c'est un peu heroic fantasy, Skyrim, tout ça. Je trouve vraiment ce côté. Je ne le connais pas. D'ailleurs, peut-être qu'il est dans la salle et qu'on ne le sait pas. Salut à lui. Mais il y a un côté d'utiliser des œuvres de fiction pour raconter, mais de manière pudique, un peu sa vie à lui.
Et je serais assez d'accord sur les précédents EP, mais pas forcément sur celui-là.
Bah, sur celui-là, il y a un truc de fils de roturier.
Mais tu le trouves pudique etc. Tu trouves qu'il est pudique, Femme To Go?
Je sais pas. Je connais juste son âge. Hein, donc,
non, mais,
il dit juste qu'il a 23 ans et après, t'as rien.
Non,
sauf si t'essaies de lire entre les lignes.
C'est quand même très sombre. Quoi. Sur Nameless Belligerent, par exemple, il est quand même très dans le personnel. Quoi.
Bah, justement, c'est un peu. Tu vois, c'est parce que toi, tu parles de Nameless Belligerent, Juliette, mais Brice, lui, parle de cette EP-là, en particulier du dernier qui est sorti.
Ah,
là,
ouais.
Voilà. Moi, je trouve qu'on retrouve pas justement ce truc plus personnel qu'il arrivait à trousser avec ces références-là. Quoi.
Mais. En fait, je l'ai un peu vu l'EP comme un exercice de style, un petit peu comme en fait, comme on l'évoquait un peu sur Zandan sur Solsad, de faire 5 morceaux en prenant vraiment ses sonorités donc électroniques et mettre des touches de musique épique,
ouais, c'est ça, ouais.
Épique, etc. Et là, d'utiliser un peu plus des images, comment dire, du Moyen Âge, de la littérature, de heroic fantasy, des jeux vidéo aussi dans ce style-là. et de vraiment faire cet exercice de style-là comme il l'a fait, il le fait aussi avec Baby Hayabusa ou comme il le fait avec Néofront dans d'autres genres. Et là, cet exercice-là m'a parlé parce que je trouve qu'il respecte du début à la fin ce qu'il voulait faire. C'est pas son premier album. Il joue beaucoup avec... moi, j'ai trouvé le fait de... Je dis des choses sur ma vie à travers des références. Et c'est quelque chose qui m'intéresse globalement parce que les références, de base, ça me fait un peu... J'aime bien ça, mais ça me fait un peu chier parce que c'est un peu élitiste si tu les as pas et si tu dis juste comme machin truc et c'est tout. Bon, c'est pour ça que Freeze Corleone, je trouvais que ça a eu un peu sa limite au bout d'un moment. Là, il y a toujours un peu j'utilise tel personnage, telle chose pour dire un truc vraiment personnel sur moi et c'est ce que j'aime beaucoup chez Femme Togo et que je retrouve là sur La Bête, notamment dans les images et les choix musicaux. Et étant donné que j'ai la parole, je vais en profiter pour qu'on enchaîne. Parce que... Ah, bah alors attends, non. Alors on n'enchaîne pas. Juliette, lève le doigt, vas-y.
Non, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu parles du côté élitiste, un peu de la référence et tout. Et c'est vrai que, regarde, moi, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Je connais très peu de mangas. Et pourtant, j'adore. Donc, je trouve justement qu'il a cette faculté aussi à parler par son flow, par le côté plus perso qu'il incorpore. Et par rapport à ça, justement, dans La Bête, ce qui est, c'est pas qu'il se confie pas, c'est, je pense que c'est de la redite. Et beaucoup plus classique et sage au niveau de l'écriture par rapport à l'EP précédent qui était très fort encore.
Mais musicalement, il essaie d'aller vers autre chose un peu de nouveau aussi.
C'est vraiment le dernier mot. Hein. T'essaies vraiment d'avoir le dernier mot.
Non, mais
là,
c'est vrai. De toute façon, t'as raison et c'est pour ça qu'il a. Et je trouve qu'il a bien fait justement de choisir Wilhelm sur cette EP là parce que c'est comme ça qu'il a réussi à atteindre un truc différent dans la prod et dans la couleur générale de l'EP. Donc c'est ce qui est cool.
Et ben on va notamment parler de l'aspect musical de Femme Togo après un autre extrait.
Elle m'a laissé descendre, juste une cigarette, tachée de rouge à lèvres. Elle m'a laissé du temps, juste ce qu'il fallait, pour que j'oublie que j'arrête. Toi et moi c'est pas possible comme Manny et Gina, les ailes dans le dos et les cornes sur le front, je ne sais plus quoi faire. Je me regarde sombrer, je la regarde danser, je bois un dernier verre. Et puis le soleil sort de la pénombre, tout devient plus pénible, presque les traces de tes ongles. Un message texte, une photo dans l'ombre, on a fait comme ça des années, tu ne connaissais même pas mon nom. Donc, j'irai jusqu'au bout de la nuit.
Donc, on vient d'écouter le morceau Ivy de Baby Hayabusa, qui est aussi Femme Togo, attention, gros reveal. Et là, on change complètement d'ambiance musicale, et je voulais justement passer cet extrait et parler aussi de ça, parce que ce que je trouve vraiment intéressant aussi avec lui, c'est que. Musicalement, et finalement, il est moins enfermé dans un son qu'on pourrait le croire. Je sais aussi que, alors je vais aller voir le nom parce que sinon je vais rater en direct au micro. Mais il y avait un morceau sur Nameless Belligerent aussi qui m'a mis une tarte et qui s'appelait, c'était genre sur une musique presque de film, jazz, etc. Regardez comment je comble avant d'arriver. Voilà, c'est bon, je l'ai. Scopolamine, voilà. Et ça, c'est un morceau qui m'a vraiment beaucoup marqué en cette fin d'année. Où c'était Femme Togo qui rappait sur une musique de BO de dessin animé japonais où c'était à la fois jazz, ça changeait complètement du son SPK. Donc il y a eu Baby Hayabusa et je pense que Juliette, t'es la mieux placée pour en parler étant donné que t'as chroniqué cette EP.
Dans cette magnifique chronique, c'est comme ça qu'il faut le dire maintenant, cette magnifique chronique sur l'ABC d'Arbusson.
Non, j'ai rien dit.
Ah, donc tu le penses pas, super.
Si, je le pense, non, si, elle est exceptionnelle. Est-ce que, en fait, Femme Togo, il est plus divers musicalement qu'on pourrait le croire?
Comment ça, plus divers? Ah, tu veux dire dans son ensemble, oui. Alors,
Femme Togo, Baby Hayabusa.
Oui, j'avais pas compris. Effectivement, la spécificité là, c'est que donc cet alter ego Baby Hayabusa, il est bien plus lyrique dans l'interprétation, bien plus personnel dans l'écriture. Et si on devait dire la différence entre les deux, ce serait que Femme Togo est plus en colère quand Baby Ayabusa il est plus triste. Je trouve que c'est ce qui ressort quand même. En gros, Baby Ayabusa, il était actif sur SoundCloud, pareil, à la même époque. Et Femme Togo avait fait, entre guillemets, mourir cet alter ego en l'annonçant sur Twitter. Et finalement, il a sorti un EP en juillet 2023 qui s'appelle Deadly Poison Sting. J'ai un super accent anglais, comme vous pouvez le constater. Oh yeah. Merci.
Tu l'as très bien dit, personne ne va te juger.
Merci, merci beaucoup. Donc il revient avec Baby Ayabusa, ce qui surprend un peu tout le monde, et l'EP marche super bien. Et ça n'a rien à voir avec One Man Army, quoi. Quand t'écoutes les deux, enfin, à part la voix du mec, tu te demandes, et peut-être dans les dans certaines références, mais sinon, tu te demandes si c'est le même mec, quoi. Et donc Deadly Poison Sting, c'est plus sur le plan de l'instrumental, à la fois dansant, mélancolique. T'as des influences de plein de genres différents, de jazz, de joule, beaucoup de couleurs différentes. Et je dirais que aujourd'hui, et notamment avec La Bête, je comprends plus trop. La différence maintenant entre Baby Ayabusa et Femme Togo, parce que quand elle était justement très présente à ce moment-là, je trouve qu'elle s'est effacée sur Nameless Belligérante. J'en parlais tout à l'heure, mais le fait que j'ai beaucoup aimé cet EP, c'est aussi parce que je trouve qu'il a totalement incorporé le Baby Ayabusa dans le Femme Togo. Et ça lui va super bien, parce que, comme le disait Raph, il y a cette écriture qui est très personnelle, très sombre, et à la fois à côté, t'as le côté agressif de Femme Togo dans ses références, dans son flow et tout. Et en fait, je trouve que sur Nameless Belligérante, la différence, elle s'efface. Et donc, j'ai pas trop compris ce choix de mettre donc, sur La Bête un feat Femme Togo, Baby Ayabusa. Je trouvais ça un peu... Bon, j'ai un peu soufflé, quoi.
C'est le morceau plus chanté, plus justement moins dur que les autres de l'EP, quoi.
Oui, mais sur Nameless Belligérante, tu prends Rainy Day, il a jamais autant poussé sa voix que sur Rainy Day, alors qu'il l'a fait sous le nom de Femme Togo. Et en fait, c'est un son à la Baby Ayabusa, quoi. Le gars,
c'est un peu artificiel au final, cette séparation featuring sur l'album. Ouais.
Ça devient artificiel, quoi. Et je me suis noté des phases, mais par exemple sur Scopolamine qui sort donc sous le nom de Femme Togo sur Nameless Belligérante, il dit j'ai aucun problème à chanter comme sur Bad, donc qui est sur Deadly Poison Sting, être aimant le temps d'une balade, enfin que des trucs qui sont caractéristiques de Baby H qui sort sous le nom de Femme Togo. Donc maintenant, est-ce que cette différence est vraiment à relever, quoi?
Ouais, surtout que je pense que ça joue aussi sur la teinte musicale, quoi. Sur Deadly Poison Sting, il y avait ce truc d'avoir quelque chose de très funk japonais, justement, de la funk synthétique des années 80, là, qui était assez bien refait, je trouvais, justement, via Neofront, justement. C'était Neofront qui produisait.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et je trouvais ça intéressant, parce que d'un seul coup, il y avait encore une fois une question de parti pris. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'interprète, même si effectivement c'était chanté de sa part sous l'avatar de Baby Ayabusa, mais il y avait aussi ce parti pris musical. Et là, c'est vrai que sur ce morceau-là, comme finalement c'est un morceau qui est du morceau qui est sur le dernier EP, comme c'est un morceau qui est dans la teinte des autres morceaux de l'EP, au final, c'est un peu cette espèce de séparation entre les deux est finalement assez artificielle. Et on ne sait plus si Baby Ayabusa, c'est vraiment ce personnage triste, mélancolique, qui chante sur des productions dansantes, en étant sur finalement ce truc très épique de cette EP de Femme Togo, quoi.
Mais est-ce que sur un point plus positif, la diversité musicale de Femme Togo qu'on commence à voir, ça peut aussi être une force pour lui? Parce que il n'a pas l'air de vouloir s'enfermer non plus dans le son très sombre, à tout le temps parler de couteau, de Femme Togo, quoi.
Bah, quand il le fait sous son nom, que ce soit Nameless Belligérante, ce dernier EP ou One Man Army, c'est quand même assez souvent ce genre de truc un peu épique et guerrier, quoi.
Oui, mais enfin, t'as des morceaux où d'un coup il fait une sortie de route, donc je vais aller le revoir, Scopolamine, notamment.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Et je trouve que c'est... ça peut donner des choses intéressantes pour la suite, quoi.
Ah, mais de toute façon, pour moi, c'est-à-dire que ce soit lui, que ce soit Yerko, si on élargit un peu même à quelqu'un comme Joe Lagrin, pour moi, je comprends en fait l'enthousiasme de jeunesse qu'il y a autour d'eux, parce que, et je trouve ça génial, cette spontanéité qu'ils ont, et déjà cette espèce d'idée bien précise qu'ils ont l'air d'avoir sur la musique qu'ils veulent faire. Et en même temps, j'ai aussi des réserves, parce que je vois aussi pour le moment les limites. et que je vois pas l'aboutissement. Donc je suis d'accord avec toi sur l'enthousiasme et sur le potentiel, mais ça me fait pas encore le lever de ma chaise, quoi.
Ok.
Oui, mais tu vois, sur des gars comme Irko, on en parlait tout à l'heure, ou Joe Lagreen, comme tu viens de citer, je vois aussi les limites, parce que aussi à ce côté moins personnel, je pense. Mm-hmm. Mais pour le coup, Femtogo, justement, par la complexité de tout ce qu'il peut faire, etc., le fait qu'il soit très complet, il a cette faculté d'aller plus loin. C'est pour ça, justement, que La Bête, c'est un peu dommage, entre gros guillemets, parce que. En fait, il peut mêler ces deux identités et là, je ne comprends pas trop la direction que ça prend, quoi.
Il y a quelque chose qui est important aussi dans la musique de Femtogo, c'est le travail sur les productions musicales. On a avec nous l'expert production musicale de France. Le Habib, bon, Habib Bey, il est plus consultant foot, ça marche pas. Bref, j'ai raté ma blague.
Franchement, Habib Bey, ça m'aurait allé.
Ouais. Le Habib Bey de la prod en France sur les soirs de Champions League sur Canal+. Raph, est-ce que le fait que, enfin déjà, est-ce que le travail de Néofront, il est quand même remarquable? Est-ce qu'il est intéressant?
Oui.
Et est-ce que il y a vraiment un duo, tu trouves, toi, Femtogo, Néofront, que ce soit sur Baby Hayabusa ou?
Oui, bah clairement, bah je trouve que c'est un vrai talent de la production. Et moi, c'est ce qui m'avait marqué justement avec One Man Army, c'est cette espèce de tissu musical, encore une fois, de faire de cette espèce de musique martiale, de musique de film, ou même de jeux vidéo de guerre finalement, avec des productions où on retrouvait pas mal d'éléments de trap, par exemple. Donc je trouvais ça très intéressant. Même sur Nameless Belligerent aussi, il commence à développer d'autres choses. Donc, et sur Baby Hayabusa aussi, puisque encore une fois, c'est cette espèce de teinte funk un peu électro-funk des années 80. Donc non, je trouve que le mec est très talentueux. Mais toute cette scène-là, ils savent s'entourer de mecs très talentueux. Hein. Irko, le dernier EP qui était produit par Amné. Ça peut être très rebutant au début, je trouve, la teinte musicale qu'ils ont, parce que c'est très froid et très électronique. Mais encore une fois, c'est le parti pris qui me plaît. Donc, je trouve qu'il y a une vraie identité, un vrai travail déjà pour des gens qui sont aussi jeunes, quoi.
Juliette, oui, je t'avais déjà entendu parler de Néofront aussi. Je crois que t'aimes bien ce qu'il fait.
Ouais, bah je trouve déjà qu'ils se correspondent vraiment très très bien. Ils se sont bien trouvés. Je sais que Femtogo, justement, sur plusieurs sons. Dont un qui est sorti sur SoundCloud qui s'appelle Any Mercy Forbidden, qui est une distraque envers sa propre communauté d'ailleurs. Je vous invite à aller l'écouter, c'est vraiment très drôle. Il dit qu'il a vraiment 300 maquettes dans l'ordi toutes les semaines avec Néofront. Je pense qu'ils ont, une vraie connexion, et quand ils font de la musique ensemble, c'est assez évident. Et ça se ressent sur Nameless Belligerent, parce qu'on sent que, je reviens toujours au même point, hein, toujours au même EP, mais on sent qu'il y a une sélection, qu'ils ont eu la possibilité de faire cette sélection parce qu'ils ont fait plein de morceaux ensemble, et c'est pour ça que c'est aussi bien condensé, quoi. Et Néofront a aussi fait des trucs super avec Petite Sœur, notamment.
Ouais.
Sur des trucs où il y a beaucoup, beaucoup plus de traitement de la voix, un truc un peu informatisé qui est aussi très plaisant, même si peut-être moins accessible, mais voilà, c'est très cool aussi.
Ben parfait, on va passer aux deux derniers coups de cœur.
Je connais par cœur mon ABCDR du son.
Raph, je te laisse l'honneur de nous parler de ton coup de cœur qui est, je crois, mon album préféré de ce début d'année.
D'accord, j'ai la pression du coup maintenant, il faut que je sois à la hauteur de ton appréciation. Ouais, mon coup de cœur, ça va être Dire Je T'aime de Ben PLG, qui est son troisième album. J'ai envie de dire que c'est son troisième album, tu vois où j'ai venir.
Oui, il veut dire que c'est son premier album.
Bah voilà, bon, après je comprends sa gamberge derrière l'idée de considérer ce disque comme un premier album, peut-être le plus accompli et abouti. Vous en parlez dans cette excellente interview
de la VCLR du son.
Ça devient fatigant, cette fois. Mais je pense que justement, dans nos yeux et par croix accidentée, on nourrit en fait ce que va devenir. Alors il y a eu les EP aussi, Réalité Rap Musique, mais surtout cet album. C'était pas non plus, je trouve, justement, ces disques des mixtapes plus ou des projets, puisque c'est le mot à la mode et je déteste ce mot, donc voilà. Pour moi, c'était vraiment des albums. Et c'est dommage qu'ils les assument pas comme ça, parce que ça montre justement l'évolution d'un artiste d'album après album, et que ce troisième album, justement, c'est peut-être son plus accompli et abouti, comme je le disais. Parce que, ouais, je dirais même que c'est même son meilleur, aussi bien pour son taf que celui de son équipe de production. C'est fidèle depuis le début, que sont Lucci et Murer, et avec le caméléon.
Le caméléon.
En plus, ouais. Et donc, pour pourquoi je trouve que c'est sans doute son meilleur disque, parce qu'il va plus loin dans le fait de se raconter, en ayant toujours ce prisme du milieu socio-culturel d'où il vient, hein, c'est-à-dire ce sous-prolétariat du nord de la France, et même, je dirais, de province de manière générale. Je pense qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui vivent dans des moyennes ou grandes villes de province qui peuvent peut-être aussi se reconnaître sur ce qu'il raconte. Mais il en parle un peu plus au passé, parce qu'il a changé de statut. C'est maintenant un artiste accompli. On l'a vu il y a quelques jours, on enregistre à La Cigale avec Brice, et c'était un très beau concert. Et un morceau comme Les Mégots dans le Bac à Sable, par exemple, il en parle beaucoup au passé. Et ça lui permet, du coup, je trouve aussi, d'écrire ses meilleurs morceaux, d'être plus en phase avec sa vie actuelle et de se dévoiler un peu plus. Je pense à un morceau comme Le Goût du Sel, qui est, je trouve, un de ses plus beaux morceaux écrits jusque-là. Le morceau Dire Je T'aime aussi, qui est même drôle, où il y a une forme de second degré, justement, sur ce truc de savoir se dire je t'aime entre mecs.
L'image du Pôle emploi.
Ouais, c'est ça. J'attends qu'il souffre comme le Pôle emploi. Donc ça, c'est marrant. Et puis le fait de se bagarrer. Je vais raconter ma life. Ma compagne, elle est prof au collège, et elle m'a dit, mais c'est flagrant comment, en fait, les filles, elles s'envoient du love. Ça, c'est comme sur Instagram, elles s'envoient du love, t'es la best, machin et tout. Et les mecs, en fait, ils se tapent dessus. Mais en fait, elle me dit, j'ai compris au bout de quelques années qu'en fait, c'était juste pour se prouver qu'ils s'aimaient bien, quoi. Et c'est vraiment ce qu'il raconte dans ce morceau-là, et je trouve ça très cool. Et le dernier morceau aussi, qui s'appelle Faut pas oublier de dire je t'aime. Et ce qui est bien aussi avec lui, c'est qu'il n'y a jamais de pathos. C'est-à-dire qu'il y a un morceau qui s'appelle Plus peur du monde, qui parle beaucoup de la confiance en soi. Et c'est vraiment drôle, quoi. À un moment donné, il parle d'une relation sexuelle qu'il a eue, et il dit, pour pas partir trop vite, je me faisais les compositions de Liverpool dans la tête, quoi. Donc c'est vraiment drôle, parce que c'est jamais grave, en plus. C'est naturel chez lui. D'ailleurs, sur scène, ça se voyait, c'est vraiment naturel chez lui. C'est quelqu'un de drôle et d'à l'aise, quoi. Et ce qui est cool, c'est que c'est aussi un disque qui est plus électronique et rock par moment, mais sans être dans la démonstration un peu ostentatoire que peuvent avoir parfois d'autres artistes quand ils veulent faire justement des choses un peu éclectiques. Et il y a une forme, du coup, d'évolution logique, je trouve, depuis ses premiers disques. Avec, encore une fois, je reparle de ce morceau Le Goût du Sel, mais même l'instru, en fait, elle est phénoménale. Je trouve que c'est un de ses meilleurs morceaux écrits, mais c'est aussi l'instru qui est chamé. Et puis, il y a plein de petites nuances dans un morceau aussi, dans un morceau qui s'appelle Silhouette des ombres, qui ouvre l'album. On est sur une rythmique binaire et on passe sur du ternaire, et en fait il n'y a eu aucun moment où on a l'impression qu'ils veulent faire rentrer des ronds dans des carrés, quoi. C'est très fluide, et donc voilà, toutes ces raisons font que c'est un de mes disques préférés de ce premier trimestre.
Et tu as bien raison.
Voilà, c'est bon, j'étais à la hauteur de...
C'est bon, parfait, okay, cool. J'ai rien à dire. Et moi, rapidement, mon coup de cœur. Disclaimer directement. Je n'ai aucune part chez cet artiste. Je ne touche rien de ses streams. je sais pas, j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est vraiment...
juste parce qu'il parle de toi dans un morceau.
Et j'allais dire, parce que mon prénom est cité deux fois dans trois morceaux de l'EP.
C'est de la corruption, mec.
Je sais,
il t'a amadoué. T'es pas lucide, t'es biaisé.
Non, mais vraiment, il est trop fort. Et j'ai vraiment un coup de cœur en début d'année sur ce rappeur marseillais, jeune rappeur marseillais qui s'appelle ADM, et qui a sorti un EP qui s'appelle Sur le Pouce. Et effectivement, je suis cité deux fois. L'ABCDR est cité aussi une fois.
C'est pas crédible,
parce que
tu devrais avoir honte, ton éthique de journaliste
arrête, un sacré coup, les là. Gens vont pas comprendre que tu fais du second degré, mais oui, parce qu'en fait on a fait sa toute première interview en février dernier. Je l'ai découvert complètement par hasard en traînant sur Spotify en décembre, et ADM, c'est un jeune rappeur qui à la fois travaille avec des producteurs qui font vraiment des prods très proche de ce qui se fait dans la nouvelle génération, donc un peu expérimental, à la fois trap, un peu électronique, et en même temps, ce qui m'a parlé, c'est que par-dessus ça, ça rappe très sérieusement, et ça, par contre, c'est beaucoup plus rare. Ça fait des vraies phases politiques sur ce qui se passe actuellement, notamment sur cette EP Sur le Pouce, où des hommes politiques, des partis politiques en prennent aussi dans la tête, et ça m'a fait du bien d'entendre un peu des avis un peu forts actuellement, donc c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Mais du coup, voilà, je touche zéro centime sur les streams de ADM. Mais...
Tu l'as trop dit, c'est bon, c'est trop justifié. Mais dans 4 ans, on va apprendre que t'es devenu son manager, bien et sûr, tout fera sens.
Non, je vais pas avoir le syndrome du journaliste qui devient manager. Mais donc oui, c'est l'EP Sur le Pouce de ADM. Écoutez, on va pouvoir terminer. Merci Raphaël, merci Juliette, merci pour votre vous. Présence.
Merci Brice.
Bah de rien, avec plaisir. Merci aussi au public qui était là, étant donné que l'épisode a été enregistré à la librairie Galerie La Une, dans le cadre de la résidence de Fifou pour sa maison d'édition Empire. Donc merci beaucoup.
Merci cet épisode, merci,
j'allais le dire évidemment.
Ah, pardon,
cet épisode a été enregistré et monté par le très grand Schkid. Sa parole nous manque. Le rap français a besoin qu'il revienne avec un édito sur Yard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ça nous donne un coup de main pour l'algorithme. D'ici là, n'hésitez pas à nous lire sur notre site et à nous suivre sur les réseaux sociaux de l'ABCDR. À très vite.
Check check mon ABCDR.
ABCD.
L'ABCDR, l'ABCDR.
J'connais par cœur mon ABCDR du son.
Son ABCDR, ouais.